C'est vendredi, enfin, oui. Tout le monde en studio fait le signe. Yeah! Je pense qu'on est content à quelques heures du week-end quand même. Il va faire beau en plus cette fin de semaine. C'est vrai, hier, on a eu pas mal d'orages, des problèmes également avec tout ce qui est panne électrique. Ça semble être terminé pour la plupart des secteurs. Alors aujourd'hui, 26 degrés. Très, très faible possibilité d'averse. Et pour la fin de semaine, demain samedi, 29 degrés. Profitez-en bien et possibilité d'averse pour dimanche, mais quand même avec un 25 degrés, ça va bien se prendre. Aujourd'hui, on revient avec un segment que vous avez beaucoup apprécié l'an dernier, notre tournée des régions du Québec. On va aller faire un tour à Matane. On va aller faire un tour sur la Côte-Nord également. Et là, aujourd'hui, on va aller savoir qu'est-ce qui se passe cette fin de semaine et aussi au courant de l'été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est ma patrie. Ah, vous le savez, petite fille de Chicoutimi. Non, on reste une bleuée. Hein, on peut enlever la fille du Saguenay, mais pas le Saguenay de la fille. Hein. Ça, c'est le dicton populaire. Et aussi dans la région de Québec et aussi de Charlevoix. Également, l'émission, chose très intéressante, et j'avoue que j'étais un petit peu surprise quand même. L'humoriste Stéphane Poirier sera avec nous, connu quand même du grand public pour avoir fait quelques galas juste pour rire. Première partie de Sugar Sammy ici, mais aussi en France. Il propose un spectacle, Quand l'amour frappe fort, qui est tiré de son expérience sur la violence conjugale et les relations toxiques. Je me suis demandé comment on peut faire un spectacle d'humour en rire et parler aussi de violence conjugale, chose qu'il a vécue pendant près de 4 ans avec une conjointe. Donc, il va venir nous dire un petit peu que ça a été quoi son cheminement pour ce spectacle d'humour. Et pour tout de suite, il est en studio avec nous. Il vient à peine ou presque, il travaille fort pour terminer son annuel de l'automobile qui va sortir le 1er août prochain. Benoît Charrette, salut.
C'est pour ça que j'avais bras en l'air tantôt. On a presque fini.
Ça achève!
Ouais, c'est notre chemin de croix annuel pour finir le livre. Là, c'est toujours une grosse corvée de quelques semaines pour les vérifications. Là, officiellement, tout est terminé. On est en vérification finale. On s'en va chez l'imprimeur la semaine prochaine. Donc, une autre édition de plus de 700 pages avec une 40-50aine de nouveautés. 34 modèles électriques cette année. On est dans les vagues électriques. On va avoir des reportages sur les véhicules électriques. On a une section d'occasion de 35 pages cette année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent neuf, mais il y a beaucoup de gens qui achètent d'occasion aussi. Mm-hmm. En fait, il y a 3 fois plus de gens qui achètent d'occasion que de neuf. Puis on a fait le répertoire cette année de tout ce qui est intéressant entre 5 et 30 000 $, les bons coûts, les mauvais coûts. Il y a des modèles à éviter. On vous fait signe, on vous dit, on touche pas à ça. Alors, beaucoup d'informations, évidemment, comme d'habitude. Et on est en train de terminer ça. Alors, toute l'équipe va probablement prendre une bonne bière demain.
Une bonne bière froide. À 29 degrés, ça va bien se prendre.
Oui, absolument.
Aussi. Mais t'as pas arrêté de l'été parce que t'as été là-dessus, t'as fait des tests.
Non. C'est, ça commence. Généralement, là, le coup d'envoi, c'était le Salon de l'Auto à Détroit. Là, cette année, c'était la dernière année en 2019 que Détroit est en janvier. À partir de cette année, ça va être en juin. Pas sûr qu'on peut encore appeler ça un salon de l'auto. Ça va être comme un festival de la voiture. Ils vont complètement changer le concept. Mais généralement, là, les premiers salons de l'année, on prend des notes, on dit « OK, c'est ce qui s'en vient ». À partir de mars, ça commence à être sérieux. Fin avril, on est dedans pas mal, les deux pieds dedans là, jusqu'aux yeux, puis on termine à peu près à ce temps-ci de l'année. Alors là, on va prendre une semaine ou deux pour souffler, des petites vacances. On va revenir pour parler du livre au mois d'août, quand il va sortir. Et après ça, ben on recommence, puis on prépare déjà le prochain.
Ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas beaucoup.
Il y a quand même pas mal de nouveautés dans le milieu de l'automobile, Dans l'industrie. On a senti le changement un peu électrique. On est dans une transition, en fait. Il y a de nouveaux modèles. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour 2020? Est-ce que ça va être une grosse, grosse année pour l'industrie?
Ça commence. 2020, là, c'était le but que s'était fixé la plupart des constructeurs il y a 5 ans. Je dirais là, que la grosse période, ça va être 2020 à 2023. On a promis, bon, il y a eu une surenchère de promesses du côté des constructeurs. Volkswagen, par exemple, est allé d'une annonce qu'on va investir 65 milliards au cours des 5-6 prochaines années, que d'ici 2030, on voudra avoir 70 modèles partiellement ou totalement électriques. L'industrie automobile, en général, dans les 5 prochaines années, va investir plus de 200 milliards dans les nouvelles technologies. Et on voit que c'est sérieux parce qu'il y a beaucoup de transitions en ce moment. On a vu Ford qui a annoncé un peu plus tôt cette année qu'on éliminait les voitures ou presque. On garde la Mustang et la Fusion pour 2020. Toutes les autres voitures, Taurus, Fiesta, Focus, c'est parti. GM vient d'enlever la Cruze, la Volt, la Chevrolet Impala, la Cadillac XTS. Tous ces modèles-là ne reviennent pas en 2020. on investit vraiment dans l'électrification. Même Mary Barra, la présidente de GM, quand on a enlevé la Volt, beaucoup de gens ont dit, ben pourquoi? Ouais, c'est un modèle populaire, la Volt. Il n'y a pas de baisse de vente. Au contraire, elle dit, nous, l'hybride branchable, pour GM, c'est déjà une technologie dépassée. On s'en va dans de l'électrification, des technologies plus adaptées. Et on l'a simplement enlevé du marché pour cette raison-là. Et on est beaucoup plus près de nos sous. Parce que comme il y a beaucoup d'argent à investir, là, tout ce qui ne rencontre pas les chiffres de vente qu'on avait fixés, on l'enlève du marché. Alors, on le fait un peu partout, on le fait chez tous les constructeurs et on se prépare. Il y a même d'autres qui vont s'associer. Par exemple, Mazda, il y a un lancement de produits auquel je vais assister à la fin du mois de juillet. Là, c'est vrai qu'on est déjà en juillet. Moi,
ça va vite hein, quand même.
Je perds la notion du temps. Mais à la fin du mois, je m'en vais essayer un nouveau modèle électrique de chez Mazda. Ça va être le premier modèle électrique. On va s'associer beaucoup avec Toyota pour la technologie parce que Mazda est une petite compagnie automobile, n'a pas les moyens d'investir des montants faramineux. Donc, on va s'associer à d'autres compagnies. Et il y a beaucoup de modèles de prestige, qu'on parle de Mercedes, de Aston Martin, d'Audi, qu'on va transformer ces grands véhicules de luxe en modèles électriques. Par exemple, la Jaguar XJ va être en 2020 un modèle 100% électrique. On va avoir un modèle électrique dans la classe S. On va avoir des modèles électriques chez Audi, la Audi GT, la Audi e-tron qui arrive cette année. Qui arrive chez les concessionnaires au moment où on se parle. Donc, on voit à partir de cette année beaucoup plus de modèles apparaître sur le marché.
Beaucoup plus de modèles, est-ce que ça veut dire que le kilométrage augmente aussi? Parce que c'est ce que les gens souvent reprochaient aux véhicules électriques, c'est-à-dire que oui, mais c'est bien beau, là, mais si je fais juste 200 kilométrages, je me trouve une borne. En région, il n'y en a pas tant que ça non plus.
Là, le réseau commence à bien s'étendre. Circuit électrique du côté d'Hydro-Québec, on a dit qu'à terme, on va avoir plus de 2500 bornes au Québec. Et là, on est en train d'ajouter des bornes qu'on appelle des phases 3, des charges rapides, des 400 watts, qui permet en général de donner à peu près 80% de l'énergie nécessaire pour une pleine charge de pile en 20 à 30 minutes, dépendamment des modèles. On voit aussi l'augmentation des autonomies. Là. Si on recule, il y a quelques années à peine, on était à 150, 175, quelques-unes à 200. Il y avait Tesla qui est au-dessus de la moyenne à plus de 300. Là, maintenant, le chiffre, la plupart des constructeurs, c'est 400. On a la Kona électrique qui est à 415. On a la Kia Niro et la Kia Soul qui sont tous deux des nouveaux modèles qui sont autour de 400 eux aussi. La nouvelle Leaf Plus est annoncée à 363, mais j'ai fait presque 400 avec, j'ai fait 391. Donc, si on conduit avec le pied léger, là, on est capable d'augmenter. Puis j'avais fait un petit peu plus de ville. En ville, la régénération fait qu'on augmente un peu sa capacité d'autonomie. Donc, on est à 400. Elon Musk a annoncé il y a à peine un mois que lui va présenter dès 2020 un modèle à 600 km. Et là, on travaille, il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau des piles solides. C'est une technologie qui se développe rapidement et on dit qu'on pourrait, en moyenne, tripler l'autonomie connue en ce moment avec des piles électriques. Bon, au moment où on en parlait, on était à 300, mais on peut penser à 800-900 km. Là, on arrive à des autonomies qui vont rencontrer pas mal, un plein d'essence. On arrive à peu près à la même place et les piles solides se rechargent aussi très rapidement. Là, évidemment, on a des technologies à 400 watts pour recharger, qui est le plus rapide en ce moment. Sauf qu'on va avoir des modèles de luxe comme la Porsche Taycan, entre autres, et certains modèles de constructeurs allemands qui vont pouvoir charger à 800 watts. Là, ça commence
ça
à être très
vite,
rapide.
Ouais.
Mettez pas votre doigt là, parce que vous allez vous brûler.
Vous allez avoir les cheveux
oui,
en l'air.
Oui, oui, pas juste les cheveux. Je vous le garantis. Mais on en arrive là, et ça, ben, l'avantage, c'est qu'on peut recharger très rapidement. Donc, on s'approche vite d'avoir un véhicule qui va avoir une autonomie semblable à un plein de carburant. Puis, qui ne prendra pas beaucoup plus de temps à charger. Évidemment, il va falloir installer des bornes rapides un peu partout. Pour le moment, c'est un petit peu ce qui fait défaut sur le réseau. Mm-hmm. On n'en a pas beaucoup. Et je pense qu'on commence à regarder ça de près parce que sur les charges qu'on appelle des phases 2, des 240 watts, qui fonctionne avec 32 ampères, chargé, par exemple, une Tesla, ça prend à peu près 12 heures. Bon, il faut coucher là, puis repartir le lendemain.
Donc, il faut que tu y penses à l'avance.
T'arrêtes pas, pas 12 heures sur le bord de la route à attendre ton auto, là. Mais une phase 3, ça permet de charger rapidement. Donc, il faut augmenter le nombre de charges rapides qu'on a sur la route.
Parce que les constructeurs font leur travail, mais il faut que nous aussi, rendus ici, on puisse le faire aussi avec les bornes. Ça va tous ensemble. Puis les incitatifs aussi. Il y a toujours les rabais, mais je pense que les incitatifs... moi, franchement, là, j'habite sur la Rive-Sud. Je serais très prête et je veux m'acheter une voiture électrique, mais il faut que j'ai un incitatif. C'est-à-dire, je pense au pont Hippolyte-Lafontaine. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Ben, si, quand il va y avoir les travaux, si j'ai une voie réservée, ben, ça va me permettre davantage de passer. C'est la même chose sur le pont Samuel de Champlain.
Oui, puis on le fait ailleurs. On se donnait des exemples tantôt hors d'onde. Des places comme la Norvège, qu'on donne toujours en exemple, mais qui ont favorisé l'achat, pas juste en subvention, mais en avantage aussi. Les stationnements payants ne coûtent rien. Les ponts à payage ne coûtent rien. À Londres, par exemple, si vous avez un véhicule électrique, vous pouvez vous rendre dans le centre-ville de Londres, alors que si vous avez une voiture ordinaire, ça coûte 16 livres sterling. C'est quand même des prix pour quelqu'un qui utilise souvent le réseau routier, de donner des avantages, ça devient un incitatif puissant là, pour acheter le véhicule.
Donc, quand ça change ta vie à tous les jours, je pense que c'est là que les gens vont peut-être faire cette transition-là.
Exact.
On continue la discussion avec Benoît Charrette. Et je sais, vous avez toujours des questions quand Benoît est en studio. Vous avez envie de lui parler. 514-790-9850. Et on va parler aussi au retour de baisse de vente de véhicules parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui ont connu des baisses de vente dans la dernière année. C'est dû à quoi? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre donc pour 2020 avec Benoît Charrette? 10h22 avec toujours Benoît Charrette qui va nous parler de ses nouveautés de l'industrie automobile en 2020. On a beaucoup parlé des voitures électriques parce qu'évidemment, je pense que c'est ce qui s'en vient là et qui est déjà arrivé, mais qui va s'améliorer aussi avec les années.
Exact. Puis bon, on a quand même d'autres modèles. Évidemment, la valse des véhicules utilitaires se poursuit. Là,
on parle d'environnement, on parle de voitures électriques. Ouais. Puis le VUS est toujours aussi populaire. C'est l'un des véhicules les plus vendus.
Deux raisons à ça. D'abord, le côté pratique d'un VUS. Généralement, un VUS, on se pose moins de questions s'il y a de la place, ces choses vont rentrer. Deuxième facteur, nos voisins du Sud, les Américains, parce qu'il ne faut pas oublier que le Canada, en termes de taille, représente la Californie. En termes de... On a à peu près la même population que la Californie, puis on vend à peu près le même nombre de véhicules que la Californie. Donc, aux yeux des constructeurs, le Canada, c'est comme le 51e État américain. Donc, on n'a pas beaucoup le choix des modèles qu'on va acheter. On conçoit les véhicules nord-américains pour les États-Unis. Et le Canada, on va envoyer chez vous. C'est très rare qu'on ait des versions particulières. Il y a des modèles qu'on n'a pas. Je parlais de la Buick Cascada, pour en nommer une, qui est un modèle qui est trop de niche pour le Canada, qui va trouver preneur aux États-Unis parce que la population fait qu'on va être même avec un taux de pénétration de marché qui est très bon, on va réussir à en vendre quand même, mais pas ici. Donc, parmi les nouveautés, je suis allé essayer récemment un Ford Explorer qui change cette année. Un des modèles qu'on attend, que les amateurs de camions attendent, c'est le Gladiator, Jeep Gladiator, qui va fonctionner. J'ai beaucoup de courriels là-dessus. Là, je vais en avoir un essai lundi. Donc, ce modèle-là arrive au moment où se parle chez les concessionnaires.
Qu'est-ce qui est différent de Gladiator?
En fait, c'est un Jeep, comme un Wrangler, mais c'est pas un Wrangler. Mais les caractéristiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut enlever les portes, le pare-brise, se promener complètement à découvert.
Les amateurs de Jeep aiment ça.
Aiment ça, puis il n'y a aucun autre pick-up de taille moyenne qui peut faire ça. Et c'est un vrai camion dans le sens qu'on peut tirer des charges de plus de 7500 livres. Donc, on peut l'utiliser comme un camion, mais il y a les capacités d'aller hors route comme un Jeep. Donc, je pense que Jeep a eu un coup de génie, là, honnêtement, parce que ça, la demande est déjà très forte. Ça va beaucoup se vendre. D'ailleurs, c'est un des modèles qu'on a sur la couverture. La Toyota Supra, qui revient cette année, qui a fait beaucoup parler d'elle, Et je pense que le modèle le plus attendu, je m'en vais le voir jeudi cette semaine, c'est la nouvelle Corvette. La nouvelle Corvette, cette année, va changer de style, va arriver avec un moteur central. Donc, c'est la 8e génération de Corvette. On n'a jamais eu de moteur central. Ça doit faire 50 ans qu'on parle de mettre un moteur central. Il y a déjà eu des prototypes, des concepts qu'on a sortis. Mais là, finalement, GM va produire un moteur central. Donc, ça va complètement changer la Corvette. Ça, c'est très attendu.
Mais la Corvette, ça va être pour quel type de personnes? Est-ce que c'est plus pour les bébés boomers qui ont connu la Corvette?
Je pense que chez GM, on veut tranquillement aller chercher une autre clientèle.
Ouais,
parce que le style a toujours été le même, c'est-à-dire un grand nez avec moteur à l'avant, deux places, porte-à-faux très court à l'arrière. Ça a toujours été ça, une Corvette. Sauf que là, puis les ingénieurs disaient, parce que j'ai eu l'occasion de parler à certains au Salon de l'auto à New York, ils me disaient qu'on est un peu arrivé au bout de ce qu'est une Corvette au niveau performance, au niveau style, et qu'il faut un peu aller ailleurs. Parce que bon, il faut bien comprendre que les Corvettes, j'ai essayé une Z06 la semaine dernière, qui a 650 chevaux. Il y a une ZR1 qui en a 755. C'est pas la performance qui manque, là. Mais on veut aller dans un monde différent. Puis on veut aussi être nez à nez avec des voitures exotiques que sont Ferrari, Lamborghini, qui sont des véhicules avec un moteur central. Donc, j'ai hâte de voir parce que il y a un risque de s'aliéner la clientèle fidèle qu'on a depuis des années parce qu'on s'en va complètement ailleurs. Par contre, il y a une chance d'aller chercher des clients qui sont jamais venus. Mm-hmm. Alors, on a probablement mesuré le pour et le contre du côté de GM, l'impact. Mais chose certaine, la décision est prise. La fin de la production de la 7e génération de Corvette, ça va être cet été. Et on va commencer immédiatement à l'usine de Bowling Green au Kentucky à faire la prochaine génération. Les premiers modèles de la 8e génération vont arriver cet automne.
On va surveiller ça. Il y a plein de questions pour toi, Benoît, comme à l'habitude. Il y a Sylvain qui a une question sur les pick-up. Allô, Sylvain?
Allô? J'ai une question. Ça a l'air que le F-250, il va changer de modèle cette année. Le F-150,
Le F-150 ne change pas. Le Super Duty va changer effectivement dans cet automne. Alors, on s'entend, là, c'est pas des changements majeurs. On va retravailler parce que là, évidemment, on vient de sortir un nouveau camion HD du côté de Ram. On a présenté le nouveau camion HD du côté de Chevrolet et GMC il y a deux semaines. Alors, évidemment, il faut que Ford bouge parce que c'est le segment de marché où on vend le plus de véhicules aux États-Unis et de très loin. Donc, on ne peut pas se permettre d'être à la traîne vis-à-vis de ses concurrents. Alors, on va apporter des changements. Je peux vous garantir qu'il va avoir plus que 1000 livres-pieds de couple parce que c'est ce qu'on a annoncé chez Ram il n'y a pas très longtemps. Donc, on va retravailler probablement les capacités de remorquage, la puissance brute et au passage, peut-être donner un petit peu de style. De toute façon, on l'a dans l'annuel de l'automobile. Vous pourrez le regarder. On en a déjà parlé dans le livre.
D'accord, bien, merci beaucoup.
Pas de problème, Sylvain.
Merci à vous, Sylvain. André, vous avez une question pour Benoît Charrette?
Oui, madame, ça serait simplement, étant donné qu'on est un pays nordique, est-ce que la température peut influencer l'autonomie du véhicule électrique?
Oui, absolument. Bon, ça dépend des modèles, ça dépend comment on le fait, ça dépend où on charge le véhicule. Mais il faut calculer quelque part entre 15 et 40 % de perte l'hiver. Quand il fait très froid, si votre voiture est dehors et que, bon, elle n'est pas chargée, de partir le véhicule, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, des batteries, donc vous perdez. Il y a quelques conseils qu'on peut donner. Par exemple, si vous avez accès à un endroit à l'intérieur que vous pouvez le laisser charger, il y a beaucoup de véhicules qui vont préchauffer la voiture. Donc, vous partez dans des conditions de voiture qui est déjà à son maximum, donc vous allez perdre un peu moins en autonomie. Mais il n'y a pas de méthode qui ont découvert où il y a zéro perte d'autonomie l'hiver, là. Le minimum, c'est 15, puis ça peut aller jusqu'à 40, là, comme je disais.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ça répond pleinement à ma question.
Merci, André. À vous, passez une belle fin de semaine. Il y a Louise qui nous écrit par courriel. Question intéressante au sujet des voitures électriques. Si j'achète maintenant une voiture avec une autonomie de 300 km et qu'éventuellement l'autonomie des voitures passe à 800 km, comme on l'a mentionné tantôt, pour la valeur de revente?
Bon, effectivement, la valeur de revente ne sera pas extraordinaire. Un bel exemple de ça, c'est la première génération des Nissan Leaf. Souvent, les gens me demandent, ouais, j'aimerais ça une auto électrique, mais j'ai pas vraiment les 45 ou 50 000 $. On peut acheter une Nissan Leaf 2012-2013 pour moins de 15 000 $. Évidemment, on a une autonomie qui va être de 125 à 150 km, mais ça dépend de vos besoins. Il y a des gens qui travaillent et qui ont juste besoin d'une voiture pour aller au travail. Ils font 30 km aller, 30 km retour. Bon, vous en avez amplement. Mais effectivement, l'augmentation des autonomies fait qu'un modèle qui est un peu plus vieux devient désuet rapidement.
Oui, c'est ça. Puis on perd un peu de sous. Gros marché de roulotte au Québec, c'est une question de Sylvie Dupuis. Qu'est-ce qu'on fait pour nos loisirs pour avoir une traction de 5 000 livres?
Bon, en fait, les modèles à 5 000 livres, il faut aller dans des utilitaires, je dirais, de classe moyenne. Parce que les petits utilitaires, là, qu'on parle d'un Ford Escape, d'un CRV, on n'est pas équipé pour faire ça. L'Escape est le meilleur, je pense, dans ces catégories à 3500 livres. Donc, il faut aller dans des calibres comme un Sorento chez Kia, un Honda Pilot. Je parlais du Ford Explorer tantôt, qui est un bon exemple, qui va même jusqu'à 7000 livres, je pense. Puis, donnez-vous un coussin. Parce que si vous prenez 5000 livres, vous dites « Ah, ma roulotte fait 3500, 3800 livres. » Oui, mais vous ajoutez des vélos à l'arrière, du matériel à l'intérieur, il y a des passagers dans le véhicule, le canot sur le toit. Bon, quand vous faites tout le décompte, là, vous approchez dangereusement du 5000 livres. Puis si en plus, vous prenez vos vacances dans Charlevoix ou dans le Saguenay, hein, où il y a un peu de côte.
Légèrement.
Ouais, on risque de faire travailler le moteur inutilement. Donc, prenez-vous un coussin. Et il existe des solutions. Si vous partez uniquement 2 semaines par année en vacances, puis vous n'avez pas besoin de votre auto le reste de l'année pour tirer, louez-en un. Ça va vous coûter moins cher de louer 2 semaines que de nourrir un puits sans fond toute l'année en essence.
Ah oui.
Parce que, bon, il faut le justifier. Si vous êtes capable de justifier à l'année, parfait. Sinon, ben, pour le temps que vous en avez besoin, louez un véhicule qui est capable de tracter de façon honnête le poids que vous avez à traîner. Puis le reste de l'année, ben, vous n'avez pas besoin. Prenez votre véhicule régulier.
On continue la discussion avec Benoît Charrette après la pause et on continue de prendre vos appels 514-790-9850. Benoît, il y a vraiment un sondage qui m'a... Écoute, je comprends pas, là, j'avoue. La Voix de l'Est rapportait que parmi les ventes en ligne là, sur les sites, notamment comme bon, Kijiji Auto, 39 % des gens pensent acheter sans essayer le véhicule. Donc, on le voit, on clique, on achète.
Oui. Eh bien, on est dans une société de consommation instantanée. Hein. Les gens, là, prennent plus le temps d'aller voir un véhicule. Bon, à la limite, pour un véhicule neuf, il y a une garantie, puis le véhicule est neuf, donc le risque potentiel n'est pas très élevé. Mais pour un véhicule d'occasion, là, c'est, oui, il y a une économie à faire. Oui, c'est intéressant, mais il y a plus de travail à faire aussi. Il faut faire ses devoirs quand on achète un véhicule d'occasion. Il faut aller le vérifier, il faut le faire. Vérifié par un expert, il faut l'essayer, il faut avoir, si possible, l'information concernant le véhicule sur l'historique, est-ce qu'il a été bien entretenu, est-ce que le millage indiqué au compteur est le bon. Il y a plusieurs questions à poser. Donc, acheter en ligne un véhicule d'occasion, là, il y a un risque, il y a un réel risque parce qu'on ne connaît pas l'histoire, on ne l'a pas vu. Y a-tu rouillé? Y a-tu un accident? Y a 1 million de questions qu'il faut poser quand on achète d'occasion. Sauf que les gens n'ont plus le temps. Les gens, maintenant, on est dans une société de l'instantané. Y a personne qui va dire, bon, cette semaine, je vais prendre mes soirées puis je vais aller magasiner des véhicules d'occasion. Parce que très rare que le premier que vous allez aller voir est le bon. Véhicule d'occasion, il faut aller en regarder des fois 4, 5, 6. Il faut faire des analyses, aller sur les sites. Bon, on parle de Kijiji, on parle de Toebdo, on parle le site de l'AMVOC, Occasion en or, il y en a plusieurs là au Québec. Et il faut magasiner, mais ça demande du temps.
Et David a justement une question sur les voitures d'occasion. Bonjour David.
Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Je magasine actuellement un véhicule usagé. Je ne suis pas encore rendu à l'électrique, là, peut-être dans quelques années, mais je me cherche une berline fiable qui va me durer longtemps, confortable, économie d'essence, spacieuse. Puis j'avais pensé acheter une Nissan Altima 2014-2015. J'ai fait un essai routier récemment. J'étais très satisfait, mais j'ai lu aussi qu'il y avait peut-être certains problèmes avec la transmission CVT, puis ça, ça m'inquiète un petit peu. C'est à peu près le seul critère qui me refroidit mes ardeurs.
Il y a eu effectivement quelques pépins. Ce n'est pas sur tous les modèles et toutes les années. Il faudrait que j'aille voir mes rappels par cœur. Je n'ai pas les feuilles devant moi. Puis la transmission CVT, bon, chez Nissan, là, je vais être honnête, ce n'est pas ma préférée. Là. Mais il y a, dans cette catégorie-là, des alternatives aussi. Une Honda Accord, une Toyota Camry sont d'excellents modèles. La fiabilité est éprouvée depuis des années. Vous pouvez aussi aller voir de ce côté-là.
Ils
sont un petit peu plus chers parce que la demande est plus forte. C'est toujours l'offre et la demande qui gèrent le marché. Et dans les modèles Toyota et Honda, parce que les gens savent que c'est fiable, ben généralement, la demande est un petit peu plus forte, mais le produit est excellent. Vous pouvez aller un modèle, à part l'Altima, qui est intéressant. Dans le japonais, il y aurait peut-être du côté... attendez que j'y pense. C'est un modèle qui n'est pas cher, qui est un peu plus petit. C'est le modèle Mitsubishi. Le Lancer, okay. Qu'on oublie souvent, qui a disparu depuis quelques années, qui n'est pas technologiquement avancé. Là. Je ne vous mentirai pas en vous disant qu'entre 2007 et 2017, ce modèle-là n'a pas changé. Sauf que c'est très solide, puis la garantie de base est de 10 ans. Fait que vous pouvez trouver quelque chose d'intéressant à un prix tout à fait honnête, puis c'est un véhicule très solide.
Là. Bonne recherche, David.
Merci.
Bonne journée. Christian, bonjour.
Oui, bonjour et merci pour votre sujet. Bonjour à Benoît.
Bonjour.
Ma question comporte sur les produits Mazda. En 2012-2013, on a vu les fabricants Mercedes, Audi et disons d'autres devenir beaucoup plus quatre roues motrices pour le Québec.
Oui.
Parce que la saison ici, c'est plus l'hiver.
Exact.
Quand est-ce que Mazda va adapter ça à ses voitures?
Bon, ben là, on a la Mazda 3 qui vient juste de sortir, qui est offerte en quatre roues motrices. C'est la première génération où on le fait. Il y a des petits pépins de départ chez Mazda. Là, on a eu des rappels. Là, il y a un rappel cette semaine pour le véhicule qui risque de perdre ses roues. C'est pas rien comme rappel,
c'est pratique, ça.
Mais cela dit, mis à part les rappels, c'est un véhicule qui est extrêmement intéressant, qui est dans les modèles les plus équipés, avec un luxe qu'on approche littéralement des voitures allemandes. Et vous avez quatre roues motrices. Donc ça, c'est un choix dans cette catégorie-là. Évidemment, il y a Subaru, qui a toujours eu quatre roues motrices, que c'est son, je dirais que c'est son, son fer de lance, c'est son cheval de bataille, soit dans l'Impreza, soit dans le WRX, le Forester, tous les modèles ont le quatre roues motrices. Donc, c'est des endroits où vous pouvez aller voir qui sont intéressants.
Merci, Christian. Et on passe à Marie avec votre question pour Benoît Charrette.
Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'appelle parce que je vais acheter un véhicule électrique bientôt.
Oui.
Puis j'hésitais entre la Kona de Hyundai et la Nissan Leaf.
Okay.
Il y a quand même une bonne différence de prix. Il paraît que la différence se justifie à cause que la Kona, l'autonomie est mieux parce que
bon.
Le véhicule recycle l'air extérieur.
Ouais, ça, c'est... En fait, oui et non. Le Kona est intéressant. La nouvelle Leaf, j'ai essayé les deux. Honnêtement, ça dépend un peu de ce que vous recherchez. La Leaf, c'est une voiture. Le Kona, c'est un petit véhicule utilitaire. Donc, en termes d'espace, de polyvalence, d'aménagement intérieur, vous allez avoir un petit peu plus d'espace dans le Kona. Cela dit, la nouvelle Leaf, qui est à la Leaf Plus, parce qu'il faut faire attention, il y a une autre Leaf qui n'est pas la Leaf Plus, qui est moins chère, mais qui a beaucoup moins d'autonomie. Moi, là, je compare les pommes avec les pommes. Une Leaf Plus a 363 km d'autonomie. Et on a 415 km d'autonomie. Bon, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous, 363 km, c'est assez pour vous?
Oui.
Bon, alors, vous répondez à la question, parce qu'on annonce des autonomies, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'avoir plus de 400 km d'autonomie. Si pour vous, moi, vous dites, moi, je ne fais jamais plus que 200 km par jour, bon, bien, à 363, là, vous n'avez plus qu'il en faut pour rouler. Donc, à ce moment-là, allez dans celui qui va vous faire la meilleure offre. Parce qu'honnêtement, les deux véhicules sont excellents. C'est pas la même approche, mais le confort est bon. L'espace est correct. Vous pouvez embarquer quatre personnes dans les deux véhicules. Et vous avez, dans les deux cas, très peu de problèmes. Les véhicules électriques sont des véhicules fiables.
OK, parfait. Merci beaucoup.
Merci, Marie.
Merci, Marie. Question par courriel. Alexandre, est-ce que tu recommandes, Benoît, l'Infiniti Q50 hybride?
Non. Honnêtement, là.
Ça mérite d'être clair.
Ben, en fait, c'est que l'Infiniti Q50 hybride, le moteur hybride n'est pas là pour l'économie. L'hybridation, dans ce cas-là, joue le rôle d'un turbo électrique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas un véhicule qui consomme plus, mais on veut plus de puissance. Donc, on n'achète pas un Q50 hybride pour l'économie qu'on va faire. Et honnêtement, j'ai pas aimé le sentiment de conduite de ce véhicule-là. Il y a un sentiment très artificiel au niveau de la direction et la puissance n'est pas livrée de façon linéaire. Donc, j'ai pas trouvé ça très agréable. À tout prendre, prenez un Q50 régulier. Cassez-vous pas la tête avec l'hybride. L'hybride, à mon avis, sert à rien. Puis d'ailleurs, ils en ont pas fait longtemps parce qu'ils n'en vendaient pas. Alors, non, c'est pas un très bon choix.
On le recommande pas. Mario, bonjour. Votre question pour Benoît Charrette.
Oui, bonjour. Ma question est la suivante. À l'achat d'un véhicule électrique, j'ai toujours l'impression que le concessionnaire augmente les prix pour absorber la fameuse subvention du gouvernement.
Ben, en fait, là, il faudrait parler au concessionnaire, mais de la façon que ça fonctionne, c'est que les subventions, on y va en ordre. Il y a le prix du véhicule, plus les taxes, le transport, la préparation, et on enlève de ce prix final-là le prix des subventions. Je vous donne un exemple parce que j'ai fait le calcul. La nouvelle Kia Soul, qui est à 42 695 prix de détail suggéré, annoncé. Bon, bien, ajoutez les taxes de transport, la préparation, moins le 13 000 vous arrivez à 40 000 Fait que le prix réel que vous payez pour le véhicule, c'est 40 000. Parce que les gens, souvent, font le calcul. Ah, bien, 43 000 moins 13 000, je paye 30. Non, ça marche pas de même, là. Il faut ajouter les taxes de transport, la préparation, moins les subventions. Alors, le 43 000 est en fait un 40 000, une fois que vous avez tout fini. Donc, le calcul se fait comme ça. Le prix de détail suggéré, bien ça, il s'agit de le négocier. Si vous n'êtes pas sûr en allant voir un concessionnaire, appelez-en un autre, puis appelez-en deux autres. Si les trois arrivent au même prix, c'est parce que, bon, c'est le bon prix, là. C'est pas interdit pour vous d'aller négocier puis de vérifier si les prix sont les mêmes partout.
Mais quand on veut négocier, justement, sur quoi on peut négocier chez un concessionnaire quand c'est une voiture neuve?
On peut négocier sur un certain nombre de choses. On peut négocier sur le taux de financement, par exemple. Si on est intéressé et que le taux de financement est à 5,9, je le mets un peu haut, là, mais on peut négocier à du 3,9. On peut le demander. Si les gens sont intéressés à vendre, ils vont probablement considérer la chose. On peut le négocier en équipement aussi si on ne peut pas le négocier en prix. Il y a beaucoup d'options sur un véhicule, n'importe quel véhicule. On peut dire, bon, ben OK, moi, là, le modèle LX de base, je trouve ça un peu tout nu. Moi, je prendrais un EX. Bon, peux-tu me négocier un EX pour les mêmes paiements? Il faut le demander. Tu sais, négocier, là, il ne faut jamais oublier que le gros bout du bâton, il est toujours entre les mains de l'acheteur. Pas entre les mains du concessionnaire. Concessionnaire, il faut qu'il vende des autos.
Il n'y a pas le choix d'en vendre.
Vous êtes un client, vous êtes tentant, puis si vous mettez un peu de pression, vous êtes capable d'aller chercher un certain nombre de choses.
Benoît Charrette, c'est toujours un plaisir. Les auditeurs également sont contents de te parler, puis on va essayer de se refaire un rendez-vous durant l'été, pourquoi pas. Puis je rappelle que l'annuel de l'automobile 2020.
20, oui.
Déjà.
Déjà.
C'est le 1er août. Merci beaucoup, mon cher ami.
Ça fait plaisir, Catherine.
Bye.